Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Toujours intéressant de connaître la vraie valeur de sa propriété. Pourquoi je dis vraie valeur? Parce que des fois, on est émotif par rapport à notre propriété. Si vous êtes propriétaire, que ce soit d'un condo, il y en a de plus en plus, d'une petite maison, d'un chalet, on a tendance, c'est naturel, c'est humain, à trouver qu'elle vaut plus parce qu'on y a mis notre cœur, puis on l'a décoré, puis on y a mis de l'argent, à trouver qu'elle vaut plus souvent que la véritable valeur marchande. Et c'est toujours intéressant à ce moment-là de parler à des spécialistes parce que, et d'ailleurs, si vous êtes, il y en a qui m'écrivent pour me dire, moi, je suis en train justement de songer à vendre, ça serait quoi la vraie valeur? La vraie valeur, il faut faire son travail, il faut faire ses devoirs. Quel prix demander? C'est toujours la question, hein? Qu'on se pose, quel est le véritable prix? Ghislain Larochelle est auteur, il est coach en immobilier, président d'ImmoFacile.ca. Il vient de rééditer L'immobilier à la portée de tous. Merci, Ghislain, d'être
là. Merci.
Daniel Adam est courtier immobilier agréé chez l'expert immobilier PM. Merci, Daniel, d'être avec nous.
Bon matin.
C'est vrai que les gens sont émotifs hein, quand il s'agit d'évaluer leur propriété. Tu veux vendre ta maison, ça fait 20 ans que tu habites là, tu as mis ton cœur, puis tu as vécu là, tu as plein de souvenirs. Tu ne laisses pas aller ça facilement, Ghislain. Est-ce que vous êtes obligé des fois de dire aux gens, bon, regardez, je comprends votre situation, mais votre maison en vaut pas ça?
Souvent, les gens qui vont essayer de la vendre par eux-mêmes sur Kijiji ou les PAC, c'est encore pire parce que là, ils voient qu'est-ce qui s'est vendu dans le quartier, mais ils font pas de comparable. Ils vont pas aller voir, ah, OK, eux autres, ils ont une piscine, nous autres, on n'en a pas, eux autres, ils ont trois chambres, ils sont terminés. Et là, ils s'essaient sur le marché pour voir si ça se vend ou pas. Mm-hmm. Mais la valeur émotive, c'est une valeur que souvent, que ce soit en termes de vendeur ou en termes d'acheteur, tu rentres dans des maisons des fois, puis tu vois les gens qui achètent, puis tu sais qu'ils vont te faire un offre d'achat parce que la madame, elle se tient plus. Elle est super heureuse de voir la maison, puis ils te font
c'est
un
offre. C'est pour ça qu'il faut avoir un poker face quand tu visites. Hein? En général, il faut pas dire « Oh, wow, mon Dieu, c'est tellement beau! » T'évites ça, hein, Daniel?
Bien, il faut éviter autant que possible. Parce que c'est sûr que, tu sais, dans mes 30 années d'immobilier, j'en ai fait des centaines d'évaluations de propriétés. Puis les gens vont nous dire, bien, moi, ma maison, elle vaut tant. Bien, j'ai dit, OK, vous avez pris ça où, ce chiffre-là? Bien, j'ai dit, mon voisin, il a vendu tel prix. Bien, je dis, êtes-vous sûr qu'il a vendu tel prix? Bien, là, ils me disent, bien, il m'a dit qu'il avait eu son prix.
Ah, c'est sûr.
Ah, bien, là, j'ai dit, on va regarder ça ensemble. Fait que là, je vais ouvrir mon ordinateur, je vais aller au registre foncier, je vais aller chercher le vrai prix de vente. Puis des fois, entre le 380 qu'il demandait puis le 325 qu'il a vendu, bien, on se réajuste, là, tu sais. Fait que j'ai eu mon prix, ça ne veut pas dire grand-chose, tu sais. Parce que la vraie valeur, comme disait Ghislain, bien, tu sais, c'est très émotif. Là, j'en vois passer des gens, là, qui... Puis tu lui dis le poker face, là, tu sais, puis on va sortir, puis on négociera après, tu sais. Mais il y en a qui ne peuvent pas se retenir, tu sais. C'est vraiment...
Mais vous parlez de valeur émotive. Ouais. La valeur émotive, ça, c'est juste une valeur pour les gens qui sont... justement en lien émotif avec la maison, mais ça n'a aucune valeur pour les autres.
Non, ça n'a aucune valeur pour sur le marché.
J'ai élevé mes enfants ici, on a eu tellement de plaisir, on a des beaux souvenirs. Valeur zéro pour celui qui achète.
Exactement. Puis lui, puis souvent pour les acheteurs aussi, il peut avoir une valeur émotive parce que je suis près du travail, je suis près de l'école. Fait qu'ils vont payer plus cher que la valeur de l'immeuble même.
Je passe de la belle-mère.
Oups!
Fait qu'ils vont payer plus cher parce qu'il y a quelque chose dans le quartier. Je veux absolument rester dans ce quartier-là. Et si je trouve dans ce quartier-là, ça ne me dérange pas de payer plus cher, même si c'est 50 000 de plus. Mmh. Et ça, la banque va leur donner en pleine face. Là. Monsieur, vous payez trop cher ou madame, vous payez trop cher et on ne finance pas le montant total.
Ah ouais.
Vous devez avancer plus d'argent.
Puis y a vous des gens vous qui envoyez de ça parce que les gens oublient que souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à la banque. On voit ça régulièrement là, au Québec. Ils sont convaincus que ça va être correct et tout. Puis la banque dit, ben nous, votre maison, on a envoyé notre évaluateur, puis il l'a évalué, il l'a finalement sous-évalué par rapport au prix que vous payez. Daniel?
Mais ce qu'on voit beaucoup dans les quartiers centraux, mettons, on parlait du Plateau puis de Rosemont beaucoup, parce que c'est ce qu'on voit énormément de ce temps-ci. On voit des surenchères beaucoup sur les propriétés. J'en ai vécu une à Verdun en fin de semaine sur de la Poudrière, imagine-toi, un condo. Là, mais pour revenir à l'effet de rester dans un secteur, les enfants vont à l'école, la garde de riz est pas loin, ou peu importe. Les gens qui partent, mettons, c'est l'exemple que j'ai donné la dernière fois, qui partent d'un condo, puis ils ont deux chambres, ils veulent un trois chambres, mais ils vont se payer un duplex pour faire un cottage, ou ils vont s'acheter un cottage dans le secteur. Et c'est là que la folie va commencer, tu sais. C'est là qu'ils veulent rester dans le secteur. Ils sont à deux coins de rue de chez eux, ils connaissent le coin, l'épicerie, les ci, les ça. Fait que cette valeur émotive-là, ils vont y mettre le montant de plus. Puis on en a vu beaucoup, là, tu sais. Puis quand on parle de valeur, d'évaluation de valeur, souvent on va parler de la valeur, mettons, de l'évaluation municipale.
Oui. Bon. Parlons de ça. Est-ce que ça vaut quelque chose, l'évaluation municipale?
Ça vaut et ça ne vaut pas. Puis ça va dépendre des secteurs. T'sais, si je vais dans Saint-Jean, j'en mets des exemples ici là, de duplex. Dans Saint-Jean, les duplex vendus depuis le début de l'année, en moyenne, il y a 5 à 10 000 entre l'évaluation municipale et le prix vendu. Fait qu'on peut dire qu'on est pas mal près de l'évaluation municipale. On arrive à Longueuil, on est entre 15 et 40 000 de l'évaluation municipale pour le même genre de duplex. Puis là, j'arrive dans Rosemont, puis dans Rosemont, je sors des comparables, puis je regarde des évaluations à 387 000 vendues 628 000, tu sais. Un autre à 446 vendu 639 000. Fait qu'on parle de 160 à 190 000 de différence de l'évaluation municipale. Fait que l'évaluation municipale, ça veut dire quoi? Mm. À Montréal, ça veut pas dire grand-chose dans les quartiers, là, dans les vieux quartiers. Peut-être à Anjou, les quartiers sont plus normaux, les maisons se ressemblent toutes. Bon, ça peut peut-être avoir une certaine incidence, tu sais.
Fait qu'il y a un agent qui dit, regarde, c'est une belle affaire. Écoute, tu vas le payer 420, il est vraiment en bas de l'évaluation municipale.
Ça ne veut rien dire.
J'ai sorti
quelques statistiques. Si on va à Kirkland,
oui.
100% des maisons qui ont été vendues l'année dernière ont été vendues en haut de la valeur municipale. 100%. On va à l'Île-des-Sœurs, 96% ont été vendues. On s'en va en région, à Farnham, 50-50. Fait que tu peux pas dire à Farnham, hey, j'ai eu un deal, je l'ai acheté en bas de la valeur municipale. Ben, il y en a à moitié qui se vendent en haut, puis à moitié qui se vendent en bas.
OK. Donc là, on vient de conclure, finalement. L'évaluation municipale, check, on a compris, ça sert à rien. Ça donne pas grand-chose de considérer cet élément-là.
Non.
La valeur marchande, ça, c'est intéressant. La valeur marchande, c'est la valeur que le marché, on va définir ce que c'est que le marché, est prêt à payer.
Exact.
Et c'est là, pour évaluer la valeur marchande, il faut regarder plusieurs éléments, Ghislain Larochelle, entre autres. On compare les autres maisons qui se sont vendues dans le coin, c'est ce qu'on appelle les comparables.
Fait qu'on va aller chercher avec les comparables, avec les maisons vendues et non pas les maisons à vendre.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui vont aller prendre les maisons à vendre, mais ça n'a pas de rapport. L'évaluateur agréé, lui, va aller voir les comparables. Il va aller voir les frais de remplacement à neuf. Comment ça coûte remplacer la maison? Si elle brûle, on garde le terrain, on remplace. Fait que là, il va aller chercher un comparable dessus. Et quand tu es avec l'immeuble à revenu, on va aller chercher la technique du revenu pour dessus. Mais ça, c'est du 5 et plus, 5 logements et plus. L'évaluateur agréé est capable de rajouter ça. Fait que la meilleure
C'est-à-dire
façon,
combien ce logement-là va te rapporter?
Exactement.
Combien, mettons que tu veux un bloc, là,
c'est
un
ça. Fait que c'est un ratio qu'on va aller chercher, par rapport au prix payé et les revenus. Fait que la meilleure façon pour les gens qui veulent vendre leur maison, c'est l'évaluateur agréé, tu es sûr qu'il va passer à travers tout le dossier. Là, il y en a qui disent « Ouais, mais il n'y en a pas de maison pareille dans mon quartier. » Bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il va aller adapter la maison que tu as pour la rendre comparable avec les autres ou l'inverse. Il va prendre les autres maisons pour le rendre le plus similaire possible. Par exemple, il y a juste des trois chambres dans le quartier, tu as un deux chambres. Bien, il va aller enlever une certaine valeur pour la troisième chambre pour se rapprocher de ta maison pour pouvoir le faire. Fait que c'est ça la meilleure façon d'avoir une bonne valeur marchande.
Mm-hmm. Daniel?
Ben, nous, quand on fait des évaluations, évidemment, on a accès à Centris ou à Matrix d'un côté à nous. Avec Matrix, on a accès à ce qui est vendu, même si ce n'est pas encore notarié, on a même accès à ça. Donc, on est vraiment, je te dirais, très à jour parce que ça peut être vendu, on le voit, nous, on le voit passer dans le système, mais ça va être notarié dans deux mois. Mais ça devient comparable immédiatement, même s'il n'est pas encore notarié. T'sais. Alors, pour nous, c'est assez facile. T'sais, à un moment donné, moi, quand j'étais, il y a une dizaine d'années, 15 années dans le plateau, je fais des évaluations au téléphone. Les gens m'appelaient puis je donnais l'évaluation au téléphone. C'était assez particulier à l'époque, mais j'avais ciblé un secteur où tous les condos se ressemblaient.
Ouais.
Il y avait des deux chambres, des trois chambres, des garages. Fait que j'avais un petit papier avec moi puis je pouvais dire ben, t'as-tu un deux chambres, un trois chambres, c'est-tu un Devex, c'est-tu un Montplex, c'est-tu ci, c'est-tu ça. Je sortais l'évaluation comme ça au téléphone.
Ouais.
Et là, je le disais, évidemment, c'est rapide. Si vous voulez plus précis, il faut que j'aille vous rencontrer parce que vous avez peut-être des plus, vous avez peut-être des moins, puis on va s'ajuster. T'sais. Mais cette évaluation-là, on est capable de la faire assez juste en général. Mais c'est l'acheteur qui décide.
C'est ça. Et par expérience, est-ce que les acheteurs ont tendance à gonfler leur prix de quoi, ce qu'on appelait la valeur émotive tout à l'heure, là, c'est quoi? C'est 10, 20 % de plus qu'ils devraient demander en théorie?
En général, on a ça. Fait que quand un vendeur me dit, ben moi, Daniel, ce que je veux, c'est ça, ben là, je fais une entente avec eux autres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça pendant 30 jours.
Ouais.
Dans 30 jours, on va faire une baisse de prix à mon prix.
Ça brûle pas un peu la maison?
C'est une décision. Il y a des espaces. Aujourd'hui, avec l'Internet puis les photos HD puis tout ça, on peut faire des choses assez intelligentes. C'est-à-dire qu'on met la propriété en vente et on la retire du marché puis on la remet le lendemain matin. Aujourd'hui, les gens sont tous sur le téléphone instantané. Ils reçoivent des affaires, des avis, des alertes et tout ça. Fait que si je l'enlève et je la remets, le lendemain matin, sur mon téléphone, elle pop comme du neuf.
Ou tu fais une modification carrément dans le listing.
Aussi.
Et là, ça va être retourné dans les courriels des gens. Parce que les gens vont s'abonner aux courriels de courtier immobilier. Mm-hmm. Et s'il y a une maison qui rentre dans son secteur avec les critères donnés, ils la reçoivent dans leur système.
Donc, valeur municipale, valeur marchande, on vient d'en discuter. Puis la valeur, vous dites, bon, la valeur émotionnelle, on l'a dit aussi. La valeur qu'on paye réellement, ça, c'est quoi?
C'est la valeur qu'on va acheter l'immeuble.
C'est le prix de vente.
Ouais. Ça veut pas dire que même s'il y a une valeur marchande de 300 000, que tu vas payer ce prix-là, tu vas peut-être le payer en haut ou tu vas le payer en bas. Quand on dit, Isabelle, qu'on a trouvé un bon deal, c'est quoi? C'est quand on achète en bas de la valeur marchande. C'est là qu'on a dit que les gens trouvent un bon deal, que ce soit dans l'immeuble locatif ou dans le multilogement, dans les maisons, un bon deal, on achète ça en bas de la valeur marchande.
Mais ça, on l'entend souvent, là, que la meilleure façon de faire de l'argent en immobilier, c'est d'acheter sous la valeur marchande. Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on me donne des adresses.
Ils sont bien cachés.
Sincèrement, que vous alliez, évidemment, à Montréal, on n'en parle même pas, là, ou sinon, dites-moi où. Puis je pense que mes auditeurs vont dire pareil, on va tous prendre un crayon avec des notes. Mais même ailleurs, à l'extérieur des grands centres, je veux dire, peut-être qu'il y a plus là de... Mais à moins d'être comme vous, tout le temps dessus, dedans, en train de chercher, ou d'être vraiment bien affilié à une banque, puis que tu t'appelles ton banquier, là, qui est quasiment ton ami, puis qui est au courant de qui fait faillite. Mais sinon, comment veux-tu acheter en bas de la valeur marchande?
Mais tu sais, les faillites, les reprises, il y en a de moins en moins. On l'a vu dans le journal ce matin.
Mais oui,
il disait qu'il y en a de moins en moins. Fait que, tu sais, moi, j'ai vécu une époque, il en sortait 14, 15, 20 par jour, tu sais, mais on n'a plus ça aujourd'hui, tu sais.
Ouais.
Donc, ils sont où les deals aujourd'hui? C'est sûr que les gens qui font affaire avec des courtiers, qui sont sur Centris, ces choses comme ça, tout le monde le voit en même temps. L'instantané de l'information fait que tout le monde le voit en même temps. Donc, il se passe des choses très rapidement. T'sais. Fait que les vrais deals, ils sont où?
Ça va être après la pause.
Ah, ben après la pause.
Oui, ça serait parfait. C'est-tu assez accrocheur à votre goût, ça? Hey, moi, je veux vraiment que le monde revienne après la pause, où on vous dit où sont les deals en immobilier au Québec, mesdames et messieurs. Vous, pour nous joindre, poser des questions à nos spécialistes, vous faites le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. Vous pouvez m'écrire également sur Isabelle Maréchal Officiel, ma page Facebook, et je vous réponds bien sûr sur Messenger. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que vous connaissez la vraie valeur de votre propriété? Bonjour, Lucette.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, alors moi, j'ai une maison semi-détachée, propriétaire depuis 25 ans, qu'on a toute rénovée, cuisine, les salles de bain, à l'extérieur, piscine creusée, aménagement paysager, en avant, en arrière. Porte de maison changée et tout. Mon semi-détaché voisin n'a rien fait. Rien. C'est du gazon en arrière. C'est la même escalier d'origine de 1961. Rien n'a été fait et une évaluation municipale de 80 000 $ de plus que moi. Où est l'erreur?
Mais remarquez que vous voulez pas vraiment que ça change parce que
non,
vous voulez pas payer plus de taxes foncières. Puis en même temps...
Je comprends. Ouais. Mais je pense que c'est la bonne place pour savoir comment ça se fait, ça, peut-être.
Daniel Adam, qui est courtier immobilier.
Ben, la réponse est facile. C'est parce que ça fait 25 ans que vous restez là. Quand ça fait 25 ans qu'on reste dans une propriété puis qu'on n'a pas vraiment fait de rénovation, qu'on n'a pas eu de, il n'y a pas eu de revente de notre propriété au cours des 25 dernières années. Si je vous posais la question, est-ce que votre voisin, ça a été revendu au cours des dernières années? Est-ce que vous êtes au courant?
Jamais. Ce sont des personnes âgées qui vieillissent avec leur maison.
Ah, ça, c'est particulier, parce que normalement, je dirais aux gens, ben si ça fait plusieurs années que vous êtes là puis c'est rien passé, vous n'avez pas fait de demande de permis à la ville, il n'y a rien qui a bougé. Mais là, vous me posez une bonne colle. Là. Celle-là est bonne. Parce que normalement, il y aurait dû avoir, à moins que j'y fasse une réponse.
Parce qu'il y a des révisions de rôle régulièrement. Bon, donc,
est-ce que vous avez demandé des permis pour tous les travaux que vous avez faits?
Absolument, oui. Mais moi, je me plains pas d'avoir un taux plus bas.
Non, je sais, mais normalement, vous auriez été supposé être plus élevé. Fait que c'est soit la dimension de la maison, soit la superficie ou les permis. Mais c'est bizarre.
Identique,
oui, identique.
Bon, moi, dans ce temps-là, Lucette, je brasse rien, je reste de même. Puis la journée où vous voudrez vendre, vous direz, hey, l'autre jour, au show d'Isabelle Maréchal, ils ont dit que la valeur municipale, ça valait rien, là. Fait que, basez-vous pas là-dessus.
Bonne réponse.
Merci beaucoup. Merci. Bernie, bonjour. Vous avez une question pour nos invités, Bernie?
Oui, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Ma question est surtout rapport à l'évaluateur agréé que vous avez un studio présentement. Moi,
on n'a pas d'évaluateur. On a un courtier immobilier puis on a un coach en immobilier. Mais on va vous aider pareil, Bernie.
Moi, je pense que la meilleure manière, Isabelle, pour moi, dans les périodes de fou qu'on vit actuellement dans la surenchère des marchés, je suis dans un quartier, moi, où les maisons ne se vendent pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas à vendre.
Quel coin, Bernie, vous êtes?
En banlieue de Vaudreuil, là, c'est beaucoup ça explose beaucoup dans ce coin-là. Moi, je suis juste après là, ce qu'on appelle les Cèdres.
Okay.
Je suis dans un très, très beau quartier, valeur moyenne de 350 000. Mais moi, demain matin, si je décide de vendre, parce que ça fait presque 15 ans, c'est une maison de 15 ans. Alors, on a tout rénové, les arbres ont poussé, tout est beau. Maintenant, dans le sens que moi, je vais appeler un évaluateur agréé. Je vais payer 300-350 $ pour avoir une évaluation d'un professionnel. Puis une fois qu'il me l'a donné, qu'il a retenu compte non seulement du quartier, de la valeur municipale, des rénovations que j'ai faites ou pas, et de mes voisins, là, lui, il marque le prix en bas et c'est moi qui paye. Parce que lui, il n'est pas en conflit d'intérêt. C'est complètement de manière indépendante. Je prends son évaluation et je mets ça dans mon tiroir. Lorsque l'année d'après, j'invite un agent à inscrire ma maison, là, je peux vraiment, parce qu'il y a des agents qui vont vous donner des prix incroyables parce qu'ils veulent vous signer. Parce que lui, à ce moment-là, il s'assure de au moins 50% de la commission, dans le sens que si c'est pas lui qui avance, c'est lui qui l'a signé. Alors, c'est encore mieux s'il avance au complet. Mais je sais pas si Isabelle, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'à ce moment-là, moi, je fais affaire avec quelqu'un de complètement indépendant, qui n'a aucun intérêt à booster ou baisser ma maison. Il me donne l'évaluation de par son ordre professionnel.
Exactement.
Ghislain Larochelle.
C'est une très bonne technique et je la recommande à tout le monde avant d'aller mettre la maison, que vous le vendiez avec courtier, que vous le vendiez seul, faites faire l'évaluation. On parle de entre 300 et 500 $. Vous allez avoir exactement la bonne valeur marchande. Et là, ça va être à vous de décider, est-ce que vous voulez vendre en haut de la valeur marchande pour après ça diminuer le prix, ou si vous voulez commencer tout de suite en bas de la valeur marchande pour vendre votre maison.
C'est exactement ça, parce que de toute façon, l'acheteur qui, lui, a un prêt, va être obligé de passer par sa banque ou la banque va envoyer, des fois il le paie, un évaluateur agréé pour savoir si les fonds sont garantis parce que quelqu'un a acheté quelque chose vraiment qui correspond et que tout conforme. Alors, vous avez de toute façon un évaluateur agréé qui va débarquer chez vous, mais là, à ce moment-là, c'est par le vendeur, c'est-à-dire c'est par l'acheteur, excusez.
Mm-hmm.
Alors, mais moi, je pense que pour tranquillité d'esprit, moi, j'ai fait un rajout, j'ai fait un carport sur le côté, dans un coin où il y a des maisons qui ont des garages. J'ai respecté le design de la maison en fonction de l'urbanisme et tout ça. Et là, moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'agent d'immeuble peut-être qui n'a pas vu ce que j'ai fait chez moi dans une autre maison de même style? Mais l'évaluateur agréé qui a étudié, qui est licencié, qui lui arrive, puis oui, monsieur, c'est 300, 500, parfait. Mais moi, mon 500, il peut être payant si j'ai le prix juste.
Oui, tout à fait. Oui. Merci, merci beaucoup. En même temps, les évaluateurs agréés, il faut le magasiner, son évaluateur. Il y en a des bons. Puis il y en a des moins bons.
Ben, ça va aussi beaucoup par quartier, parce que si tu as un évaluateur agréé, par exemple, tu achètes à Saint-Donat, tu ne prendras pas un évaluateur agréé de Montréal, parce qu'ils ne sont pas habitués avec le quartier. Même si on les donnait, il faut aller avec quelqu'un qui a de l'expérience dans votre quartier.
On a Johnson avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Dans le fond, ma question est la suivante. Sur la montée régie, c'est où est-ce que vous croyez qu'il va avoir un point, où est-ce que je devrais acheter une maison qui va prendre la valeur quand même vite parce que j'ai une nouvelle famille?
Vous me ramenez au deal.
Exactement. C'est bon. Parce que dans les prochains deux ans, j'aimerais ça acheter une maison ou une propriété à revenu. Fait que j'hésite à savoir dans quel coin me situer.
Très bonne question, Johnson. On va essayer de répondre à votre question parce que j'ai quand même promis, Daniel Adam, vous êtes courtier immobilier. J'ai quand même promis à mes auditeurs avant la pause de leur donner des deals.
Mais c'est sûr que pour les évaluations, où s'en va le marché de la Rive-Sud actuellement, de la Montérégie? Mais je dirais qu'avec l'avenue du nouveau train qui s'en vient, tout ce qui va être à 1 ou 2 kilomètres de la nouvelle ligne de train, ça va bouger. De toute façon, on le voit, il y a une surprime qui est donnée aux investisseurs qui ont acheté des terrains justement pour spéculer dans ces secteurs-là. Parce que justement, ça va amener du trafic. Alors, partout cette ligne de train-là va passer, il risque d'avoir beaucoup d'activités et de développement. Donc, ça peut être intéressant de peut-être être un peu précurseur, d'acheter dans ce coin-là, ou de penser qu'éventuellement, si j'achète un immeuble à revenu, mais qu'il va y avoir un service de train disponible, rapide, léger pour le centre-ville. Mmh. Donc ça, ça va être des plus. Ça se fait actuellement. C'est pas un rêve, là. C'est en train de se construire actuellement. T'sais. Puis on voit, là, tout ce qui s'est fait autour de 10-30 actuellement, ce qui s'est développé là, ça bouge énormément. Fait que c'est là qu'on devrait, en principe, en tout cas, regardez ce qui se passe à ce niveau-là.
La 30 aussi, qui a une bonne... depuis que la 30 est construite, qu'on voit que ça boom tout le tour. Là.
Oui.
Que
ça c'est encore intéressant dans ce point-là. Il y a encore des deals.
Oui. Encore des deals. Fait que là, on vient, on a deal, si tu veux.
Ben oui, tout à fait, qu'on veut certains. Moi, je prends des notes, j'ai mon crayon.
Fait que je reviens avec mon histoire de dire, si vous cherchez sur Centris, malheureusement, puis je suis courtier immobilier, fait que je suis quand même capable de dire, tu peux en avoir, mais tu ne seras pas tout seul.
C'est sûr.
Donc, il va y avoir un petit peu de surenchère l'occasion, puis j'en ai vu passer quelques-uns encore cette semaine. Fait que ça, c'est difficile. Par contre, des fois, soit sur du proprio, des packs ou des annonces privées, les
c'est
gens qui mettent
des
petites
annonces. Excusez-moi, Daniel, là-dessus, je fais n'importe quoi. C'est beaucoup aussi nourri par certains types d'agents.
Oui.
Tu sais, la surenchère, là, c'est sûr que toi, tu ne veux pas être obligé d'entrer dans une transaction où il y a déjà deux autres personnes qui veulent le même building que toi. C'est la pire position.
Oui.
Mais souvent, les agents vont leur dire, « Hey, là, garde, dépêche-toi, je ne suis pas tout seul. » Et ils s'en servent pour faire augmenter le prix de la maison. C'est sûr que leur client, c'est le vendeur.
Oui.
En même temps, il y a un intérêt parce qu'il y a une commission aussi qui va plus c'est cher, plus la commission est importante. Fait que, toujours plate, ça, un peu. Hein?
C'est plate, puis il y a des courtiers. Bon, c'est sûr que c'est ma profession, là, mais tu sais, je vois des choses, les gens qui inscrivent en bas de la valeur marchande.
Oui.
Pour faire quoi? Pour créer de la
surenchère.
Ouais. Ah. Ils convainquent les vendeurs d'inscrire en bas de ce que ça vaut. Et là, ça fait quoi? 10, 12, 14, 15 offres. Et ça finit toujours par finir par un surenchère. Tu sais. Parce que les gens, quand ils voient passer le deal sur le téléphone, puis ils connaissent le secteur, ils savent que c'est un deal. Tu sais. Ils regardent ça et disent, à ce prix-là, là, je vous
j'achète tout de suite.
J'achète tout de suite. Puis là, t'en apprends. Là, tu fais un offre, là, tu en apprends qu'il y en a deux, trois, quatre.
C'est
là, tu dis, je veux l'avoir, fait que je fais ma surenchère, puis là, je monte. Tu sais. C'est une technique de vente. Là, tu sais. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est bon pour les vendeurs. Tu sais. Fait que, mais ça amène à un marché difficile. Tu sais. Fait que si on revient à nos deals, ben, comme je dis, on disait les packs, les annonces, les gens qui mettent leurs annonces privées, puis il faut voir un petit peu à ce niveau-là. Les gens qui sont un peu plus sophistiqués ou qui comprennent un peu plus le registre foncier, ben, les avis de 60 jours, il y a des sites qui nous donnent des avis de 60 jours. T'as dit, un avis de 60 jours, c'est quand ça va mal dans ta vie. Là,
ouais.
Ça sera un avis que la banque va éventuellement peut-être reprendre ta propriété.
Il y a des sites qui affichent ça?
Il y a des sites, il y a des gens qui te
comme
donnent
par exemple,
des services. Ben, il y a JLR.
JLR.ca.
Et mon prospecteur, c'est ça.
Tu es capable d'aller voir avec ça les vendus aussi, pas juste. Parce qu'avec un courtier, tu vas aller voir les vendus des immeubles qui sont vendus avec courtier. Avec JLR, tu es capable d'aller voir les vendus courtiers et privés aussi.
Mm-hmm.
Tu as les deux.
Il y a des avantages.
Mais ils sont vendus.
Ils sont vendus, mais ça, c'est pour chercher tes comparables.
C'est ça.
Ah, oui, d'accord.
Mais t'es capable d'aller chercher tes avis de 60 jours là-dedans aussi.
Ah, OK.
Mais sur JLR ou les autres, t'as juste une photo, t'as pas la photo de l'intérieur, t'as pas de détails, tu sais. Fait que des fois, de bien connaître le secteur, bien, la photo de la façade, ça veut pas tout dire, tu sais. Mais quand on cherche des deals, donc les avis de 60 jours, les avis de retrait dans les immeubles à revenus, les avis de retrait de loyer, ça veut donc dire que la banque récupère les loyers, puis ils vont se payer eux autres même. Le propriétaire a plus accès à ses loyers. Ça commence à aller mal quand t'as un avis de retrait de loyer. Puis je dis souvent, quand vous faites la prospection, bien, ça peut être vous. Là. Trouvez-les votre propre deal. Faites-les vos deals. T'sais. Allez voir le dépanneur du coin, parlez au locataire, parlez au voisin. Vous passez devant une maison, la boîte à lettres, les boîtes aux lettres sont pleines.
Mm.
Mais il n'y a peut-être personne dans la maison. Ils ne sont pas nécessairement en vacances. Là, le gazon n'est pas fait. Il y a des plywood sur des vitres sur le côté, mettons. Quand j'ai acheté à Chicago, nous, on faisait des vols avec Google Maps. Pour qu'on voyait des toits bleus, on savait que les maisons avaient des problèmes parce qu'ils mettaient des tarpes bleues par-dessus le toit et il n'y avait pas les moyens de se payer un toit. Fait que nous, on savait que les toits coulaient. Fait que c'était des maisons qu'on pouvait prospecter. T'sais, mais ça, c'est Chicago. À Montréal, on n'a pas ça. T'sais.
À Montréal, on a quoi comme problème? Surtout quoi? C'est les liens à l'aqueduc. C'est souvent l'électricité, plomberie, des huées. Ben, Montréal ou au Québec?
C'est moins évident. On ne peut pas le voir avec Google Street
ben
ou
non,
Google
Maps.
Non,
ça, c'est sûr. Il faut que tu ailles vraiment avec, à ce moment-là, un évaluateur. Et plus, on parle d'évaluateur, mais plus d'un inspecteur.
Un inspecteur qui va être capable
qui n'est pas la même chose qu'un évaluateur. Là. J'ai des questions à savoir, justement, comment s'assurer que l'évaluateur agréé sera en mesure d'évaluer adéquatement la maison. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui m'appelle, qui m'écrit concernant son duplex, où ils ont fait, d'après ce que je comprends, beaucoup de rénovations très épurées, style condo. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des comparables. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Ghislain, et les gens vont dire, ma maison est unique. T'sais, fait qu'il n'y en a pas de comparable.
Souvent, les gens sont déçus quand ils font évaluer leur maison parce qu'ils pensaient que la maison valait plus cher.
Ouais.
Et lui, il est capable de regarder le marché, il est capable de regarder plein de facteurs qui vont varier.
Et un des facteurs qu'il faut prendre prendre en considération. Puis moi, j'ai eu des expériences avec des évaluateurs qui n'avaient pas considéré ça. En tout cas, un en particulier qui n'avait pas considéré ça du tout. Des fois, on dit tout le temps « location is everything ». C'est « location, location, location ». C'est « où es-tu situé ?» Puis en immobilier, c'est ça. Là. C'est la valeur du terrain. Oui. Et souvent, ils ont tendance à regarder la maison. T'sais. Mais le terrain, c'est fascinant. Moi, j'avais une propriété en bord de lac. Je l'ai toujours. Puis j'avais fait exactement ce que tu conseilles, c'est faire évaluer parce qu'on pensait peut-être vendre. Puis bon, là, je vous raconte mes affaires, mais bon. Puis là, l'évaluateur se pointe. Puis là, je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, notre évaluation qui était nettement en deçà de ce qu'on pensait. Là, je dis, avez-vous considéré qu'on est vraiment sur le bord du lac? Il dit, ouais, regarde, ça a zéro rapport. Un lac, c'est
ben
un lac.
Voyons donc.
Je dis, ben voyons donc, ça a zéro
il
rapport.
Il n'est pas du coin, lui, certain.
mais lui, il considérait la maison. Fait que c'est sûr que tu as le lieu, la situation géographique compte beaucoup.
Puis tu as ta conjoncture économique aussi. Si ouais. tu es dans un quartier, que tu as des problèmes dans le quartier, il faut qu'ils en tiennent compte parce que la maison va valoir moins cher aussi.
T'sais, un quartier dans lequel, par exemple, on garoche des briques dans les vitrines des
ça,
gens.
Faut faire attention aussi. J'ai eu à un moment donné un immeuble que j'ai fait faire 3 évaluations de valeur marchande par 3 évaluateurs séparés. Et c'est un immeuble commercial et les locataires partait en dedans de 6 mois. Fait que l'immeuble tombait presque vide. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens n'ont pas vu la même chose. Il y en a qui disent, on va leur louer. Il y en a un autre qui n'a pas tenu compte de ça. Il dit, il va tomber vide. Fait que là, la valeur baisse. Fait que oui, il faut choisir notre évaluateur et bien jaser avec lui et expliquer qu'est-ce que vous autres, vous voyez.
Oui, exactement. Bon, ben on a tellement de choses à dire. Le temps passe tellement vite. Il y en a qui disent, à contre-cœur, avec l'agrandissement du port de Montréal, est-ce que ce serait un bon choix d'investissement? Question d'Anne-Marie.
Ben, je pense que oui, parce qu'il va y avoir quand même un mouvement important. Je pense qu'il y a Amazon qui s'en va dans ce coin-là, je me trompe.
Oui, Amazon.
Bon, Amazon s'en va dans ce coin-là, donc il y a quand même du trafic. On va avoir des gens qui vont aller travailler là, plusieurs centaines de personnes. Fait qu'il va se passer quelque chose dans ce secteur-là. C'est mieux, peut-être, je pense qu'on n'est pas loin de Montréal, on est plus passé Boucherville, donc on est dans un secteur qui est un petit peu moins dispendieux, si je peux m'exprimer ainsi, où il y a probablement des deals à faire, mais ça prend des gens qui ont des visions pour faire des choses comme ça, tu sais.
Ouais.
De dire, est-ce que je vais avoir la patience de m'installer puis de dire, oui, dans 5 ans, 10 ans, je vais avoir eu raison, tu sais.
Ouais, c'est sûr, la patience est toujours...
C'est pas pour un flip.
Non. La patience, c'est payant.
Y a-t-il encore de la place pour des flips, Justine?
Oui, il y a encore de la place. On est capable de trouver... Les flips de multilogement sont de plus en plus difficiles parce qu'ils sont durs à trouver rentables. Ouais. Mais dans la maison de rénovation et la division de terrain, on réussit à en trouver encore. J'ai plusieurs étudiants qui sont capables d'en trouver.
Okay. Des étudiants?
Ben, mes étudiants, parce que je suis enseignant, je suis un coach.
Oui, c'est ça, oui.
Mes étudiants au coaching.
Il y a José, en tout cas, qui dit, elle a une formation en évaluation, elle dit, j'ai jamais compris ce marché, c'est un monde d'émotions, de rêves, rien de réel. Elle dit, je suis sortie de cette industrie-là parce que je magasine en ce moment-là, puis mon Dieu que c'est du n'importe quoi, des maisons tape à l'œil de 1972, nouvelle cuisine, plancher flottant, salle de bain rénovée. Ils demandent 300 000 à Sainte-Julie, ils l'ont dû le payer 90 000. Souvent, la mécanique, des points importants, justement, plomberie, électricité, ça a souvent pas été rénové. Elle dit, je comprends que la maison est là, mais la maison ne vaut jamais ce prix-là. Et donc, elle parle d'assurance-chère, puis du fait que parfois, en ce moment, le marché est comme ça.
Sa valeur émotionnelle.
On parle du wow.
Ouais,
le wow,
on parle de risque élevé. Je voyais ça à côté, justement, d'un de tes articles la semaine dernière, Ghislain, dans le Journal de Montréal. À côté de, justement, on parlait d'un sujet d'aujourd'hui, mais puis il y avait risque élevé de bulle immobilière à Vancouver et Toronto. Est-ce que Montréal, ça nous pend au nez ou on est encore, il y a encore moyen de faire
Le marché de Montréal a augmenté de façon très, très limitée, de 1, 2, 3 % par année, tandis que Toronto et Vancouver, c'est du 10 à 15 % par année qui ont augmenté. Fait qu'on n'est pas dans le même...
On n'est pas du tout dans la même...
On n'est pas du tout dans le même...
Dans la même conjoncture, Daniel Adam.
Les gens, tu sais, dans Vancouver et Toronto, je pense que je lisais un article, là, je pense que c'est dans la presse, je ne me souviens plus exactement, mais ils disaient les gens mettent jusqu'à 90 % de leur revenu dans l'achat d'une propriété. Quand tu perds 90 % de ton salaire pour acheter quelque chose, ça commence à être risqué. On n'a pas ça ici. On a encore, malgré le coût des maisons qui semble élevé, puis tout ça, ce qu'il faut penser, c'est que moi, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier.
Ouais.
Il y a 30 ans, j'avais des taux d'intérêt, tu sais, à 22 %. Ah, ouais. Aujourd'hui, à 2, 3, tu sais...
2?
Ben, je veux dire...
Où ça?
On a eu ça il y a 2, 3 ans.
Ah, OK. arrêtez, là. J'allais prendre 29, le nom là. De la banque encore.
C'est une banque virtuelle. Oui, mais ça. En Taïwan, tu sais.
Oui, bon, exact. C'est ça, merci beaucoup. Daniel Adam, courtier immobilier, Ghislain Larochelle. Je rappelle, l'immobilier à la portée de tous. Vraiment plein de conseils là-dedans. Puis vous pouvez aller sur immofacile.ca. Merci à tous les
merci
deux.
Merci beaucoup.
Tout de suite, après la pause, mon ami Florent Volant, chanteur et nous, est avec moi.